L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor. Oui, c'est le nouveau nom de Radio Évasion, vous commencez à le savoir. C'est en direct à midi, c'est en rediffusion à 18h. Aiguisez vos oreilles, je vais dire aiguisez-les encore plus que d'habitude, car si vous aimez le son, en plus d'apprécier la radio, vous allez vous régaler. Vous connaissez sans doute le festival Longueur d'onde de la radio et de l'écoute. Un rendez-vous très attendu par nous, les fanas du sonore, encore plus cette année car c'est le 20e longueur d'onde, voyez-vous. Et en plus, il retrouve après 2 ans d'interruption pour travaux son lieu fétiche, le Quartz, dont la nouvelle version vient juste d'être inaugurée. Bref, on a hâte. Alors on a avec nous Anne-Claire Lenné, la directrice du festival, et Alexandra Civel qui est chargée de production notamment. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là alors que je sais que votre emploi du temps est assez chargé à quelques jours du festival. Alors 20 ans, c'est évidemment difficile de faire une rétrospective, on ne va pas y passer les 26 minutes, mais qu'est-ce que vous retiendriez de ces 20 dernières années ?
20 ans, c'est un moment fondateur pour commencer en 2002. On n'y était pas, Alexandra et moi. On doit cette création à 4 amis. De Laurent, Aurore et Hélène qui se sont retrouvés autour de ce projet, qui avaient envie de monter un événement culturel à Brest et qui rayonnerait sur le territoire. C'était vraiment des passionnés de radio, enfin ils s'intéressaient aussi au cinéma puis à d'autres esthétiques artistiques et culturelles, mais quand même c'était des auditeurs de radio, c'était aussi des fabricants de radio parce qu'ils avaient œuvré ou ils œuvraient encore sur les radios libres, notamment sur Mutine, et puis ils étaient aussi des grands auditeurs de culture, de France Culture, et ils avaient eu l'occasion de faire un peu de documentaire pour les émissions documentaires de la chaîne. Et voilà, en 2002, ils se réunissent, ils créent une asso avec pour objectif de monter un premier festival de la radio et de l'écoute à Brest, qui a donc eu lieu en novembre 2003, avec l'appui déjà de la ville de Brest à l'époque, et puis très vite du département de la région et de France Culture, qui était quand même aussi un des premiers partenaires de l'événement. Donc 20 ans, c'est un moment fondateur, et puis ensuite, c'est une dynamique bénévole quand même au début pour une association comme Longueur d'onde, parce qu'il n'y avait pas de salariés, il y avait une coordinatrice Aurore qui était là par intermittence, qui bossait à fond pendant 3-4 mois, puis après qui partait sur autre chose et qui revenait pour la seconde édition. Et il y avait vraiment une dynamique bénévole très grande avec une équipe de 15-20 personnes qui portait le festival, quoi, qui l'organisait, qui le tenait à bout de bras. Et évidemment, l'asso, elle a beaucoup évolué, beaucoup changé aujourd'hui.
Les premiers salariés, c'était quand
C'était assez vite en fait après la naissance du festival, mais comme je le disais, c'était une coordinatrice qui n'était pas à temps complet, oui, qui était sur quelques mois dans l'année, et puis accompagnée par une ou deux stagiaires au début, et surtout un vivier de bénévoles hyper hyper investis qui seront encore là.
Oui,
en fait ils sont là, moins là, enfin là différemment, mais en tout cas de cœur ils sont toujours quand même hyper présents, hyper attachés à la manifestation. Il y a une séance d'ailleurs qui sera consacrée un peu à cette histoire de Longueur d'onde, qui s'appelle Longueur d'onde Forever, le samedi après-midi, et l'idée ce sera de revenir aussi un petit peu sur cette histoire qui a donc qui repose sur la création du festival, mais ensuite il y a aussi la naissance d'Oufipo, notre web radio, 10 ans plus tard, et vraiment le lancement de nos activités d'éducation aux médias radio.
De ça, c'est quand les ateliers radio et tout ça, ça
il y en
ça
a toujours eu, mais c'était il y avait un atelier par an pendant 10 ans à peu près, où les membres de l'asso, qu'ils soient salariés ou bénévoles d'ailleurs, intervenaient dans une ou deux écoles de Brest, et puis accompagnaient des enfants de certains équipements de quartier, mais ça restait assez ponctuel. Et puis à partir de 2010, Oufipo est en germe, donc c'est le projet d'une web radio qui a pour vocation de valoriser la vitalité culturelle du Finistère en étant une forme de banque de sons, sur laquelle seraient mises en ligne des conférences, des rencontres avec des partenaires comme Dialogue, Océanopolis et d'autres partenaires culturels, scientifiques, associatifs du Finistère. Et le projet Oufipo, finalement, il évolue assez vite vers un projet d'éducation à l'écoute, d'éducation aux médias radio et vraiment d'accompagnement des publics dans la pratique avec énormément de scolaires, mais aussi des jeunes en insertion, enfin tous les jeunes que, tous les publics que vous aussi à Radio Évasion vous, vous accompagnez, j'imagine. Et donc c'est un projet qui a beaucoup été porté par Fabrice Derval, qui a quitté l'asso il y a maintenant 3-4 ans, mais en tout cas il a vraiment pendant 10 ans porté Oufipo avec, avec son équipe, Anouk, Victor, Mathilde et d'autres. Et voilà, ils ont mis en place une forme de vitalité comme ça, enfin de bouillonnement dans, dans la compagnie. Accompagnement de la pratique radio avec des émissions publiques, des formes de spectacles radiophoniques. C'était le grand truc d'Oufipo aussi sur les, dans les 10 années là, de monter aussi des formes de spectacles radio avec teintés de fiction, de docu-fiction, de, un peu de mise en scène de la pratique radiophonique, mais aussi avec pas mal d'écriture théâtrale finalement.
Vous avez beaucoup innové finalement, parce que déjà le festival, je pense que c'était le premier du genre, festival de radio. Et puis même dans les formes, voilà, à l'intérieur. Puis même vous avez valorisé beaucoup le, tout ce qui était artiste sonore. Enfin, je ne sais pas s'il y avait d'autres lieux où, où vraiment ils pouvaient s'exprimer en tant que tels.
Bah, les artistes sonores, c'est vraiment les questions ensuite de lisière dans, dans la programmation. Quelle est la limite? À quoi on s'arrête? Au sens où il y a des festivals de musique, je pense, qui s'intéressent beaucoup aux expérimentations sonores.
Oui, c'est vrai.
Avec des artistes qui sont vraiment dans des démarches entre l'électroacoustique, l'audio naturalisme. Enfin, parfois, il y a des endroits de porosité quand même entre les programmations. C'est vrai que nous, le cœur de Longueur d'onde, c'est la radio, c'est le prisme. La programmation quand même s'appuie sur le prisme radiophonique, mais c'est vrai qu'on a toujours, on s'est toujours intéressé à des personnes qui avaient des démarches sonores. Bah justement, c'est le festival de la radio et de l'écoute. Et donc, derrière le mot écoute, on a aussi toujours porté une attention particulière à des personnes qui cultivent quoi, ce sens, cette capacité d'écoute, cette attention singulière donnée à cette faculté humaine si importante.
Et oui, qu'on oublie trop souvent. Enfin, nous, on trouve, en tout cas. Aussi, vous proposez, Longueur d'onde propose des formations professionnelles. Ça, c'est assez récent, je pense. Enfin, elles sont de bonne qualité, en plus, depuis quand en gros?
Depuis 2019.
Donc c'est assez récent.
Oui, c'est récent. Je pense qu'on aurait peut-être pu le faire avant, mais on n'avait pas aussi la capacité en termes de ressources humaines de porter une activité qui est quand même pas des plus simples. Enfin, c'est pas mal de temps passé à accompagner les stagiaires qui veulent se former, à les orienter, à les conseiller, monter les formations. La chance qu'on a, c'est aussi grâce au festival d'être en dialogue avec, comme tu le dis Véronique, des gens qui sont très compétents, qui sont des auteurs de documentaires radio, des auteurs de fiction radiophonique, des personnes qui mènent des ateliers radio, qui sont des gens qui ont beaucoup d'expérience et puis qui apprécient transmettre cette expérience. Et donc, on a un groupe de formateurs et formatrices qui est très précieux, avec lesquels on collabore, et on organise, on va dire, une à deux formations par mois à Brest.
Oui, c'est ça, c'est un bon rythme.
C'est un bon rythme, ça devient un bon rythme. Là, pendant le festival, il y en a 4. Pendant le festival, on essaie de monter aussi des nouvelles formations. Cette année, il y en a une qui s'appelle Vox et Revox, avec les harmoniques du néon. Donc justement, c'est une compagnie qui est plutôt dans... qui s'intéresse beaucoup à la radio, mais qui est vraiment dans une expérimentation du sonore à travers... D'une part la musique électroacoustique, et puis d'autre part Anne-Laure Pigache, elle est vocaliste, artiste vocale, improvisatrice en fait vocale. Donc voilà, et là la formation, c'est vraiment une formation sous forme de workshop, de pratique avec de la composition collective, et c'est une formation nouvelle qu'on monte pendant le festival.
Et c'est ouvert, enfin c'est pas spécialement pour les artistes sonores quoi, enfin...
Non. Oui, non, c'est sûr que c'est des formations où si on a un petit peu de pratique musicale et de composition, je pense que ça aide. Quelqu'un qui n'a jamais touché la musique électroacoustique, mais on reste très ouvert quand même dans les formations, même si l'idée c'est d'avoir aussi des groupes qui s'entendent et des stagiaires qui parviennent à collaborer ensemble et qui parlent un peu un même langage.
Oui. Puis voilà. Après il y a des deuxièmes niveaux, par exemple je pense à fiction sonore, on fait le premier niveau, puis après si on veut persister, on se perfectionne. Là, pour les 20 ans, vous avez fait une collecte, je crois, aussi d'histoire du sonore des gens. Vous avez demandé aux gens de...
Oui, un petit peu. Alors, ça commence. On fait une séance sur Brest en son. Donc pour Brest-Hanson, on a proposé par voie de presse à des personnes volontaires de nous partager leurs sons de Brest et de nous expliquer un petit peu pourquoi. On a eu quelques sons, c'était pas si nombreux, je sais pas si on s'y est pris si bien pour communiquer.
Mais bon, on relance l'appel,
voilà,
hein, c'est pas
ce n'est
tard.
Pas trop tard. Si vous avez des, voilà, si Brest était un son, quel serait-il pour vous? Et puis racontez-nous pourquoi ce son et l'histoire que vous y associez. Et puis il y a un autre appel à son qui est plutôt qui se concentre plutôt sur les histoires de radio et de son, donc des histoires qui peuvent avoir eu lieu au festival, mais aussi dans un studio radio, mais aussi voilà, quel est un souvenir marquant, un moment un peu fort dans votre histoire, dans votre relation à la radio, pourquoi pas un souvenir d'auditeur aussi, enfin tout est possible.
Avec des archives, ce serait encore mieux, mais même s'il y a beaucoup d'archives sonores qui se sont perdues, je pense, de ces années 80 glorieuses, oui, par exemple. Mais bon, et justement, enfin, la radio elle-même, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Alors vous, c'est vrai que Longueur d'onde, c'est surtout Radio France, votre prisme, mais bon, vous êtes de plus en plus ouvert à d'autres radios, par exemple.
Oui, bah, c'est vrai que pendant longtemps, le festival, il était associé à France Culture, donc il y avait comme ça une coloration Radio France et beaucoup France Culture. Oui. C'est vrai que les grands invités, on ne va pas se le cacher, c'est beaucoup de grands invités d'Inter, de Culture aussi, et d'infos un peu, mais un peu moins. Beaucoup moins même. C'est aussi les gens qui répondent à nos invitations, parce que parfois on crie un peu dans le désert. Enfin, il y a des gens qui sont pas si faciles à atteindre. Et ensuite, on a quand même toujours, et je dirais de plus en plus, travaillé d'une part avec les studios de podcast, avec voilà, les Binge Audio, Arte Radio, c'est un peu différent parce que c'est aussi c'est public, enfin c'est aussi voilà la chaîne Arte avec ce projet de web radio, première plateforme de podcast. Mais on a toujours beaucoup travaillé avec Arte Radio, Binge Audio, Louis Média, Nouvelles Écoutes. Et puis ensuite, on accompagne des projets d'indépendants, d'auteurs qui travaillent soit en collectif artistique, soit de manière vraiment indépendante. On accompagne aussi pas mal les radios associatives. Enfin, il y a toujours eu cette envie quand même de dialoguer, de créer des temps de réflexion sur la mise en lumière aussi du rôle des radios associatives sur le territoire. Donc on essaye d'être quand même assez éclectique et divers dans notre approche et de faire un peu de place à tout le monde, quoi. C'est vraiment un objectif qu'on se fixe.
Il y a même Skyrock cette année, oui, en lien avec le rap brestois. Ça, c'est, voilà, ça, c'est un thème, par exemple. Alexandra, c'est vous qui en parlez, Alexandra ?
Eh bien, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un appel aux rappeurs brestois à venir participer, en tout cas en s'inscrivant sur un formulaire. N'hésitez pas à nous contacter.
Ça sera quoi ? Ça sera quand, en gros ? En quoi ça consiste ?
Alors, ce sera au Capucin, à Brest. Et l'idée, bah, c'est aussi de mettre en lumière la scène rap brestoise.
Donc ça sera une scène ouverte en fait, c'est ça? Et ça sera retransmis en même temps sur Skyrock
Hélas non, parce que c'est la nocturne, ce sera enregistré en pleine journée. Donc,
bon, c'est quand même avec Fred.
Voilà, c'est Fred Musa qui nous rend visite cette année. Fred Musa, je pense qu'on a plusieurs fois essayé de l'inviter, et puis là, le sésame s'est ouvert et il a répondu à notre invitation. Il publie un bouquin en même temps, peut-être qu'aussi il était dans une phase un peu d'ouverture et envie de partager aussi son expérience. Et donc oui, il y a en effet cette scène ouverte. Alors beaucoup de demandes pour peu de place, puisqu'il y a seulement 20 rappeurs qui pourront se produire dans l'auditorium des Capucins. Mais voilà, pour une émission enregistrée et rediffusée, comme disait Alexandra, dans la nocturne la semaine suivante, me semble-t-il.
Eh bien ça.
Alors ça, d'ailleurs, ça, alors c'est au Capucin, ça nous amène au lieu, parce que en fait, on a pu expérimenter pendant 2 ans là d'autres lieux en fait pour le festival. C'était pas forcément évident. Là, vous retrouvez le Quartz essentiellement, même si vous n'abandonnez pas totalement les autres lieux, c'est ça?
Oui. Pendant 2 ans, on a été nomades dans Brest, et donc ça nous a permis de tisser des liens assez forts avec les structures brestoises qu'on connaît bien, le Macorlan, la Maison du Théâtre, la Carène. Et les ateliers des Capucins, la médiathèque aussi des Capucins. Et puis, on avait envie, en fait, avec ses partenaires, de continuer à collaborer. Donc, le Quartz redevient le cœur de la manifestation. On retrouve un peu ce confort d'être dans cet écrin, assez confortable aussi en termes d'acoustique, en termes de qualité d'écoute. Et en même temps, on continue à collaborer avec la Maison du Théâtre qui accueille deux spectacles le vendredi, avec le Macorlan où on sera pour toute une programmation le dimanche après-midi, plutôt autour des musiques. Enfin, voilà, on essaie toujours de coller avec l'identité des lieux. Mais c'est vrai que c'est chouette, ça a permis, enfin, ce nomadisme a permis aussi à Longueur d'onde de s'implanter un peu autrement dans la ville et aux structures partenaires de s'approprier aussi autrement les questions de création radio, de création sonore. Donc c'est super intéressant.
Ça restera quoi, il y aura d'autres lieux.
Oui, on espère que ça restera. Il y a une soirée à la Carène aussi le jeudi. On a essayé de, ça reste une soirée musicale, mais on a essayé de se mettre d'accord sur des artistes qui pouvaient coller aussi avec l'esprit de Longueur d'onde, à savoir l'expérimentation sonore. Donc il y a Gablé d'une part qui sort un nouvel album, et puis il y a Gérald Curdian qui est un artiste qui est déjà venu à Longueur d'onde aussi, qui vit en Belgique et qui est un créateur. Voilà, un expérimentateur sonore entre la Cold Wave et mais c'est vraiment un artiste qu'on aime bien. Donc voilà, on a conçu cette programmation ensemble.
La programmation de cette année, alors le défi de nous la résumer en, enfin, il y a combien de propositions déjà, et puis est-ce qu'il y a quand même des thèmes qui ressortent?
Alors, des propositions, je vais me permettre de répondre en tant que chargée de billetterie, il y en a 154.
Ouah, bravo.
Hors festival des scolaires, mais c'est vrai que cette programmation là, elle est réservé aux écoles.
Bien sûr.
Et sinon, il y a des thèmes, c'est tellement varié. On fait un focus sur le Portugal, notamment cette année. Il y a toujours un pays européen ami auquel on consacre plusieurs séances. Il y a des choses sur l'écologie, il y a des grands entretiens avec des grands invités de la radio.
Il y a de l'art sonore, notamment. Oui, enfin, ça sera plus sous forme d'exposition, peut-être.
Le festival, il se construit autour d'une journée qu'on a dédiée aux étudiants. Le mercredi, on commence comme ça, par une journée d'études, où on invite les étudiants en son à nous rejoindre. Donc, il y a les étudiants de Brest qui sont à la licence art, à l'ESAB ou encore à l'ISB, le Master Image et Son de Brest. Et puis, ces étudiants seront rejoints par des étudiants qui viennent de l'ENS Louis Lumière, donc d'École nationale, du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Également d'une formation de l'INA, le diplôme d'ingénierie sonore. Bon, ça, c'est le mercredi, voilà, au Capucin. C'est une programmation unique qui commence à déjà être bien remplie.
Mais c'est quand même ouvert, on n'est pas obligé d'être étudiant.
Non, c'est tout à fait ouvert, tout reste ouvert. Et puis le jeudi, on est sur des rencontres professionnelles autour du livre audio, de la création sonore pour la jeunesse, autour de l'intelligence artificielle aussi. Il y a un temps fort organisé avec l'Accord Lab sur l'éducation aux médias. Et on a une soirée sur l'écologie avec différents journalistes, notamment Julie Lalouette Geffroy de Splende.
Ouais.
C'est une soirée qu'on organise avec Reporter et qui sera suivie, première table ronde, suivie d'une rencontre avec l'équipe de du Billet Vert, qui est un studio de production belge de jeunes gens qui créent des formats audiovisuels autour des questions d'écologie, et c'est hyper intéressant. Donc ils viennent tous les trois, Félicien Bogart et sa petite bande, pour présenter Diamant Palace, une série de qualité réalisée pour YouTube. Et voilà, ils parleront un peu de leur engagement pour l'écologie. Et puis le vendredi, on arrive au Quartz. Et c'est là que, ça part.
Juste les rencontres professionnelles, c'est pareil, c'est pas réservé stricto sensu aux professionnels.
Non, rien n'est réservé, tout reste ouvert. Le vendredi, on est sur une programmation, on commence à faire un petit peu plus mêler des propositions un peu singulières, assez spécifiques, à des propositions aussi tout publiques. On accueille par exemple Mortaza Behboudi, qui est un journaliste afghan qui a été incarcéré par le régime taliban, qui a dû être libéré il y a quelques mois à l'automne, et qui a été très soutenu par un collectif à Douarnenez. Mortaza, qui était venu au festival de Douarnenez et qui avait tissé comme ça un lien avec les douarnenistes assez fort. Et donc Mortaza viendra raconter son histoire. On a une séance aussi qui s'appelle Raconter la guerre, qu'on monte avec Eric Valmire.
Oui, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de thèmes justement autour de la guerre. Oui, c'est une impression.
Alors ça, c'est pas qu'une impression, c'est la programmation comme ça se construit parfois autour de sujets qui reviennent. Et c'est vrai que cette année, on consacre une séance à l'Iran, une séance à Radio Begoum, qui est une radio d'éducation pour les jeunes femmes et les femmes tout court en Afghanistan. Donc on a un focus Iran, un focus Afghanistan. On parlera aussi d'Haïti le dimanche avec Omar Waman. Donc de fait, on s'intéresse à des terrains dits sensibles et des réalités complexes pour les citoyens qui continuent à vivre sur ces territoires. Donc c'est vrai qu'il y a un fil rouge comme ça, survivre en situation de crise et dans des territoires en crise. Mais c'est une des thématiques parmi d'autres. On a aussi des séances, comme toujours, autour de, des questions de genre, avec la question des récits d'émancipation, avec Charlotte Bien-Aimé qui revient cette année. Charlotte Bien-Aimé qui produit un podcast à soi pour Arte Radio. Mmh. Et qui sera en dialogue avec Lorraine Oliel, qui vient de sortir un podcast qui s'appelle Mon Odyssée pour Nouvelles Écoutes, qui est voilà, le récit d'un voilà, un récit d'émancipation de quelqu'un qui, à travers la radio, raconte une histoire très douloureuse qu'elle a vécue enfant. Et puis, on parle des figures de la pensée décoloniale avec deux journalistes de RFI qui ont consacré une série à Omar Blondin-Diop, une figure de la décolonisation. On a ces thématiques, on a des thématiques plutôt comme tu disais sur les questions du sonore, avec pas mal de séances d'écoute cette année, avec un salon équipé par RFI en Dolby Atmos. Wow. Avec des expériences d'écoute assez sensibles et avec une qualité de diffusion aussi à la hauteur pour les 20 ans de longueur d'onde. C'est chouette de pouvoir compter sur ce partenariat avec RFI et Dolby Atmos. Il y a des séances jeunes publics aussi, toujours. Il y a des séances consacrées à la musique avec la Ferrarock qui sera là cette année pour...
Fédération des radios rock, on va dire. Voilà.
Ouais. Pour raconter 30 ans de prescription musicale dans les radios associatives. Hein, c'est vraiment...
Des pionnières en général, ouais. On défriche.
Oui,
c'est
voilà. Vrai.
Même si nous, on ne fait pas partie spécialement de la Ferrarock, mais ouais. Mmh.
Mmh. Et puis, il y a les Papous, la bande des Papous, pour ceux qui écoutaient France Culture.
Les Papous dans la tête.
Les Papous dans la tête. Donc, la bande des Papous qui revient, non pas pour une émission, mais pour une séance de jeux littéraires orchestrée par Françoise Tressard et la bande des Papous. C'est vrai que c'est une proposition qui a toujours connu une forte audience. Quand les Papous étaient à l'antenne et tournaient dans la France entière, il y avait pas mal de monde. Le public répondait présent, donc on espère que le public viendra en nombre le dimanche après-midi au Quartz pour assister à cette séance.
Bah, en général, j'ai l'impression que Longueur d'onde n'a pas trop de problèmes de fréquentation. Enfin, notamment l'année dernière, je crois qu'il y avait presque trop de monde, c'est ça, Alexandra ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a dû changer justement cette année la billetterie et la formule, parce que auparavant, donc un pass permettait d'accéder à l'entièreté du festival, et on s'est rendu compte, notamment en bougeant du Quartz avec des salles qui avaient des plus petites jauges, que on était trop grand pour faire ça.
Donc, faut réserver en fait quand on a son pass, il faut réserver sa présence dans des séances bien particulières, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, on conservera une billetterie, notamment au Quartz, pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas donc réserver en ligne. Mais oui, on recommande fortement de réserver sa place à l'avance.
Il y a déjà des séances complètes, là, à quelques jours du festival ?
Alors, oui. Après, elles sont complètes, entre guillemets, parce qu'on a mis une grosse partie, mais on n'a pas mis l'entièreté de la jauge. Justement, vendredi, on devrait remettre des places en vente.
De la dernière minute.
Tout à fait.
Un mot des bénévoles qui sont très nombreux. Leur rôle a évolué, c'est ça, Anne-Claire ? Ils ne sont plus employés, entre guillemets, de la même façon qu'avant ?
Oui. Disons qu'il y a différentes implications bénévoles dans l'organisation du festival. Il y a les bénévoles qui nous prêtent main forte au moment de l'événement. Ils sont 140 cette année et c'est vraiment des personnes qui sont là pendant les 5 jours de festival et qui vont être chargées d'accueil à l'entrée des salles, qui vont aider au catering, aider au salon de thé, etc. Et puis, il y a les bénévoles de l'association qui sont des bénévoles qui sont là tout au long de l'année, qui sont, on va dire, une petite trentaine, et qui sont là tout au long de l'année aussi, souvent depuis plusieurs années. Et donc, en effet, leur participation à l'organisation du festival, elle a pu évoluer avec le temps. Mais néanmoins, c'est des personnes qui demeurent hyper importantes pour la vitalité d'une association comme Longueur d'onde. Donc, ces personnes vont soit s'investir plutôt à l'endroit des ateliers radio, parfois accompagner un atelier sur le terrain, parfois monter la librairie, faire les commandes d'ouvrages pour la librairie du festival, être là aussi pour les commissions d'écoute. Chaque année, on reçoit, on a des appels à candidature pour les prix de la création documentaire Petites ondes et Grandes ondes, pour la Marmite radiophonique, ainsi que pour le prix de la création jeunesse. Et on a un vivier d'une trentaine de personnes, voire plus, hein, 40 personnes peut-être, qui, sur le premier trimestre, entre septembre et décembre, chambre réalise des écoutes pour présélectionner les pièces qui seront nommées pour concourir à ces prix.
Ouais, vous avez combien de candidatures en général, en moyenne ?
Cette année, on avait 150 petites ondes. Et,
ah oui, ouais, quand même.
Et à peu près la même chose en grandes ondes, je crois que c'est ça ?
Alors non, en petites ondes, on avait beaucoup plus, on en avait 180, quelque wow. chose comme ça.
Oui, donc il y a vraiment, là ça montre aussi qu'il y a une vitalité dans la création radio qui est forte. Quoi.
Bah, de plus en plus, oui, le fait aussi que la création passe par d'autres canaux que les canaux des radios publiques ou avec la création de studios de podcast qui sont de taille variable. Il y a évidemment des studios qui ont une assise aujourd'hui économique, même si c'est toujours compliqué, mais qui ont été rachetés par des groupes médias, ont quand même une assise professionnelle, on va dire. Il y a des studios beaucoup plus récents. Il y a des studios où c'est aussi finalement une démarche indépendante qui repose sur peu de moyens économiques. Mais pour autant, les gens qui se lancent là-dedans sont des gens qui sont très expérimentés, qui ont souvent aussi pu un peu se balader dans d'autres médias, qui ont une expertise et une expérience dans la création déjà très, très aboutie. Et donc les pièces qu'on reçoit pour les petites ondes, malgré leur caractère non professionnel et amateur à l'endroit où les gens n'ont pas reçu de salaire pour leur création, sont quand même d'une qualité aujourd'hui remarquable, quoi.
Bon, plein de belles choses à écouter, mais déjà la fin de cette émission. Donc, vous allez tout simplement au festival hein, du 7 au 11 février, donc à Brest, essentiellement au Quartz. Vous allez en ligne réserver surtout vos places. Merci beaucoup et en attendant, on pourra bien sûr écouter cette émission sur le site de la radio. À bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt au festival.
Merci, au revoir.